Les lauréats de la mission Patrimoine 2024 ont été dévoilés. Nous partons ce matin à leur découverte.
Pour chacun des 8 départements de l'ancienne région Midi-Pyrénées, un site patrimonial a été sélectionné pour bénéficier du soutien de la mission Patrimoine. Nous en parlons avec Jacqueline Guigou, déléguée régionale adjointe de la Fondation du Patrimoine. Bonjour madame.
Bonjour.
Alors, merci de votre venue ce matin à Radio Présence. Nous allons tout de suite commencer par quelques-uns de ces projets. On va partir d'abord en Ariège avec la restauration de la roue à eau de l'ancienne usine à chaud de Pratt-Bonrepos. Quelle était son utilité particulièrement ?
Alors, cette roue à eau est située sur la rive gauche du Salat. C'est une roue à aubes de 6 mètres de diamètre et d'1,75 m de large qui servait à l'entraînement du concasseur de l'usine à chaud et ciment de la cave. Une puissance de 13 chevaux quand même pour cette roue. Oui. Et elle alimentait aussi une pompe à eau qui remontait l'eau à un réservoir situé juste au-dessus du site.
Et cette roue maintenant ne sert plus du tout.
Alors cette roue, elle a été mise en service en 1870. Elle a fonctionné jusque vers 1920. Et elle a été désaffectée lors de la mise en place de la centrale hydroélectrique. Oui. Donc aujourd'hui, elle est à l'abandon. Sa structure en bois s'affaisse, la roue s'incline et menace de s'effondrer.
Et ces travaux vont permettre de la restaurer et c'est plus pour avoir un souvenir, une trace de ce patrimoine, industriel.
Voilà, donc oui, il y a une restauration à l'identique qui est prévue avec un désenvasement, découpe des pièces métalliques, réfection de la roue elle-même avec ses rayons en bois. Il y a un peu de maçonnerie, un peu de nettoyage à faire. Et l'idée, c'est de la valoriser au niveau pédagogique avec une installation de panneaux pédagogiques, justement. Il est à noter qu'en fait, Aristide Bergès, le père de la houille blanche, est originaire d'Ariège et d'un petit patelin pas très loin de Pratt-Bonrepos. Donc voilà, des manifestations, des visites sur l'histoire de ce patrimoine industriel.
Ah, voilà, qui va être intéressant. Et on pense à tous les scolaires qui vont pouvoir découvrir la vie de cette région. On part maintenant pour l'Aveyron. L'Aveyron que vous vouliez nous citer. Nous partons pour le Tarn-et-Garonne et nous allons à la découverte du château de Puy-la-Garde.
Oui, alors le château de Puy-la-Garde, c'est un château qui est situé au cœur du bourg, qui se compose d'une tour du XIIIe siècle, de 3 étages, et d'une aile du XVIIe, avec une petite échauguette d'angle. Ce château formait un tout avec l'église et le presbytère au XIIIe siècle, avant de devenir un bâtiment un peu plus défensif au XIVe. Du XVIe au XVIIIe, il devient la propriété de différents seigneurs du Puy, depuis la garde, avec en particulier la famille Faust. Aujourd'hui, il est à l'abandon, et depuis 2002, donc il est très, très endommagé, et il faut rapidement le sécuriser et le restaurer.
Et il appartient à qui, ce château depuis la garde ?
Alors, ce château appartient à des particuliers.
D'accord.
Et ce sont eux qui, effectivement, ont monté le projet avec un objectif de rendre cet édifice accessible au public et d'en faire un lieu culturel dynamisant pour le territoire avec des animations, des débats avec un thème qui leur tient à cœur qui est sur les enjeux climatiques et la transition énergétique. Voilà, avec une formation à la fresque du climat. Voilà les objectifs de ces propriétaires. C'est très ambitieux, surtout qu'effectivement l'état du château est de manière importante à restaurer. Donc voilà, plusieurs tranches dans ce cas-là,
ce qui est
une clé effectivement pour le financement de tels projets avec différentes étapes. D'abord une mise hors d'eau souvent pour améliorer la situation et petit à petit restauration de l'ensemble.
Oui, c'est ça. Donc on commence par les toits et puis l'assainissement autour des murs.
Voilà, avant de restaurer la façade, les huisseries. Il y a aussi une restauration d'une belle fenêtre géminée qui est prévue dans ce
cadre-là. Vous pouvez préciser, nous la décrire, cette fenêtre géminée, à quoi ça ressemble ?
Alors, à quoi ça ressemble ? C'est difficile à décrire en radio, c'est vrai qu'avec une photo, c'est beaucoup plus facile, mais je pense qu'effectivement, ça a une forme un petit peu...
Bon, on ne sait, on va chercher. Chacun va chercher sur Internet, tout simplement, pour décrire, pour voir comment est une fenêtre géminée. Nous partons maintenant pour les Hautes-Pyrénées avec cet ancien palais de justice de Bagnères-de-Bigorre qui reçoit lui aussi un coup de pouce de la mission patrimoine.
Alors là, effectivement, c'est un très beau projet qui a été pris en charge par la commune de Bagnères. Le palais de justice donc, a été construit au milieu du 19e. Il a été désaffecté dans les années 2000 et il est devenu la propriété de la ville en 2022. Et c'est eux qui ont bâti cet ambitieux projet, d'abord de restauration du bâtiment, pour en faire un écrin pour le fonds photo Alix. Alors, qu'est-ce que le fonds photo Alix ? C'est la famille Essalé, qui a eu un studio photo qui a fonctionné pendant près d'un siècle.
Donc avec à Bagnères-de-Bigorre, alors ?
À Bagnères-de-Bigorre, ouais. Avec un fonds photographique de plusieurs centaines de milliers de négatifs, avec des sujets très divers. On a des vieilles photos du Pic du Midi, par exemple. Mmh. On a aussi beaucoup de photos des ouvrages d'EDF avec les usines hydroélectriques, avec les barrages. Donc, il y a effectivement ce fonds qui est assez fabuleux. Et le projet, c'est de restaurer le bâtiment avec de gros travaux là aussi. Les plafonds s'effondrent, les murs ont été attaqués par l'humidité. Donc, il y a vraiment un gros travail extérieur et intérieur dans l'idée d'aménager les salles du palais pour accueillir ce fonds photographique. Mmh. Donc, il y a aussi une sauvegarde de ce fonds. Il faut numériser les négatifs. Donc, c'est un travail colossal et qui coûte très, très cher, d'ailleurs. Donc, vraiment sauvegarder ce fonds et ensuite pouvoir organiser des expositions à l'intérieur du palais, ouvertes au grand public, pour présenter justement cet exceptionnel fonds photographique et faire revivre finalement l'ensemble du territoire, puisque c'est quand même le témoin de ce siècle au travers du territoire autour de Bagnères-de-Bigorre.
Oui. Et cette architecture du palais de justice de Bagnères-de-Bigorre nous fait penser un peu à l'architecture des bâtiments de Luchon. C'est la même époque.
C'est le thermalisme. Voilà, c'est effectivement ça. Toute cette époque du 19e avec une architecture relativement moderne, mais très typique de la région, effectivement.
Avec ses couleurs blanc et gris. Voilà. C'est très, très, très typique. Alors, à Figeac, dans le Lot, l'hôtel d'Arnaldi a été choisi. Et vous allez nous le décrire.
Alors, Figeac est sans doute plus connu que le palais de justice à Bagnères-de-Bigorre.
Pourquoi ?
Alors, Figeac, c'est une très belle ville, effectivement. Donc, l'hôtel d'Arnaldi, c'est un des rares exemples d'hôtel particulier du 18e, ce qu'on appelle entre cour et jardin, qui est assez typique du Lot. Il a été habité par de nombreuses familles nobles ou bourgeoises. Il a été fréquenté par Champollion lors de son exil figeacois. Et il a aussi accueilli la première école de la Sainte Famille, fondée par Émilie de Roda,
qui est maintenant
Sainte Émilie de Roda, qui a séjourné. Voilà, on y trouve effectivement la marque des traditions locales de construction, avec effectivement le soleillot, cette partie du bâtiment qui est au sommet du bâtiment, aéré, qui sert à faire sécher le linge ou le cuir.
Comme une galerie ouverte,
qui est située au sommet du bâtiment. On a une architecture, bon, c'est de la construction en pierre avec des pans en bois, de la tuile canal. Voilà, et le tout est resté sans transformation majeure depuis le 18e. Donc, c'est donc effectivement un beau témoin de cette villa, avec maintenant aujourd'hui beaucoup de désordres majeurs, plus d'enduit sur les murs, des déformations importantes sur la structure en bois, de l'usure, voire de l'absence d'huisserie. Hein, il est en très mauvais état, cet hôtel. Un affaissement du perron, des problèmes d'étanchéité, des problèmes sur la toiture. L'humidité, elle compromet effectivement l'intérieur de ce bâtiment et la conservation de plafonds peints, de parquets. Donc voilà, un gros chantier qui s'annonce. C'est un hôtel qui appartient à des particuliers. Il est inscrit lui. Donc, effectivement, il a fait l'objet d'une consultation avec la DRAC dans le cadre de ce projet. Donc, des travaux d'urgence ont déjà été entrepris en 2024 et maintenant, il faut poursuivre.
Donc, ça, c'est la suite.
Voilà, c'est la suite. Restauration, restitution des fenêtres, de la charpente, de la toiture, de la cour d'honneur. Voilà, avec un objectif qui est d'ouvrir cet hôtel à la visite.
Tout
en particulier les grands appartements qui ont avec un bel escalier d'honneur, des plafonds peints du 17e, pas mal de décors, des papiers peints du 19e. Donc,
qui sont encore conservés.
Voilà, ouais. Donc c'est effectivement à but d'ouverture au public.
Oui, ce sera une belle visite, effectivement. À Figeac et pour tous les touristes qui viennent dans le Lot. Peut-être un mot sur l'Aveyron maintenant et cet ensemble Cosnard du Bèze à Sévrac d'Aveyron. De quoi s'agit-il ?
Alors, le Bèze, c'est un hameau qui est situé sur le Cos de Sévrac. L'objet de la rénovation, c'est effectivement une partie de ce hameau avec une maison forte du 17e qui possède une belle tour ronde abritant un escalier et une tour carrée à l'arrière qui était sans doute le vestige d'une ancienne tour de guet du Moyen-Âge. Voilà, donc l'ensemble du hameau est en très mauvais état et c'est la maison forte en fait qui veut être valorisée par un. Là encore, ce sont des propriétaires privés qui souhaitent préserver ce domaine pour en faire un lieu de culture et de nature. Il y a une petite association qui s'appelle L'Herbe sous le pied qui est hébergée. Encore de la promotion de l'écologie, c'est effectivement la mode. Avec aussi le souhait de ramener un petit peu de vie, un petit peu d'humain et autour de ces anciens bâtiments.
Et ces bâtiments qui sont typiques typiques de l'Aveyron.
Oui, alors c'est des très beaux des très beaux bâtiments avec de la pierre calcaire, de la lauze calcaire aussi. Ça fait renaître aussi restaurer ces bâtiments, ça fait renaître ces métiers ou en tous les cas ça permet de les préserver. C'est des savoir-faire qui sont d'une richesse extraordinaire. Souvent des artisans passionnés. C'est très beau de les voir travailler. C'est très beau de voir le résultat à l'issue des restaurations que nos bénévoles, d'ailleurs, vont vérifier sur place à l'issue des restaurations pour justement pouvoir leur affecter les prix qui leur sont accordés.
Donc, alors, évidemment, il nous manque du temps pour passer en revue tous les projets qui ont été sélectionnés par cette mission patrimoine. Peut-être un dernier mot, puisqu'il est encore temps de répondre à l'appel à candidature pour l'auto du patrimoine, Jacqueline Guigou.
Alors, oui, les appels à candidature pour 2025 sont ouverts. Donc, ces candidatures doivent être déposées sur le site de la mission Berne. Avant le 25 février.
Allez,
pour
il reste
être
2 mois.
Très exact, voilà, il reste 2 mois. Alors, comment dépose-t-on un projet ? Il faut quand même que ce projet soit solide, viable, structuré. La mission Berne s'intéresse au projet pour venir compléter leur financement. Donc, ils arrivent avec le complément de financement qui permet de terminer l'ensemble des projets. Alors, à hauteur de 300 000 euros, ce qui est quand même déjà une belle somme. Et donc, effectivement, il y a une vérification de la viabilité et de l'intérêt patrimonial du projet avant son choix.
Donc voilà, tout est expliqué sur le site. Et puis, pour déposer une candidature pour le loto du patrimoine 2025, www.missionberne.fr. Merci beaucoup, Jacqueline Guigou, déléguée régionale adjointe de la Fondation du patrimoine, de nous avoir présenté tous ces beaux projets dans notre région.
Merci, au revoir.